Radio Kapi. Au micro, Blaise Shindani Kambala. Mais d'abord, les titres de ce journal. Kinshasa accueille pendant trois jours la 9e session spéciale des enseignements au siège du Collège des hautes études des stratégies et des défenses en présence de nombreuses personnalités politiques, militaires, diplomatiques et académiques. Et ces travaux s'inscrivent dans une dynamique de réflexion scientifique autour des défis sécuritaires dans la région des Grands Lacs. Kinshasa et Alger travaillent sur l'accroissement des volumes des échanges commerciaux. C'est ce qui justifie une réunion technique ce jeudi à Kinshasa entre le ministre du Commerce extérieur et l'ambassadeur algérien accrédité en RDC. Après les communes de Limete, Gombe et Lemba, HJ Hospital étend ses services dans la commune urbano-rurale de Lancélé. Depuis ce lundi 26 janvier, cet établissement hospitalier fonctionne en continu 24 heures sur 24 avec plusieurs services déjà opérationnels, notamment l'hospitalisation, la maternité et l'imagerie médicale. Pour en parler, nous recevons son médecin directeur, le docteur Joseph Bangabé. Mesdames et messieurs, encore une fois bonjour et bon week-end à tous. La ville de Kinshasa accueille depuis le 29 janvier le 9e séminaire régional marquant le début des enseignements de la 9e session spéciale au siège du Collège des hautes études de stratégie et de défense CHESD en présence de nombreuses personnalités politiques, militaires, diplomatiques et académiques. Dans son allocution, le directeur général du CHESD, le général-major Augustin Mamba, a présenter les contours de ces travaux qui se terminent le 31 janvier et s'inscrivent dans une dynamique de réflexion scientifique autour des défis sécuritaires dans la région des Grands Lacs. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Placé sous le thème « Protection, défense et sécurisation du patrimoine naturel et culturel en Afrique centrale », ce forum vise à renforcer la réflexion stratégique autour des enjeux sécuritaires, environnementaux et culturels de la sous-région. Ce séminaire régional de trois jours abordera plusieurs sous-thèmes, notamment les fondements et les mécanismes de protection du patrimoine, les patrimoines comme objet des souverainetés nationales, les enjeux sécuritaires, opérationnels et technologiques, ainsi que les expériences nationales et leurs perspectives stratégiques. À cette occasion, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale a salué une réflexion scientifique couplée à la pensée militaire stratégique afin de faire face aux défis sécuritaires persistants. Guy Kabombo Mwadiavita a également rappelé que cette formation spécialisée n'est pas un simple passage institutionnel, mais un engagement au service de la nation. Il a en outre invité les différentes parties prenantes de cette école de formation à maintenir l'excellence et à veiller au respect strict de la discipline tout au long de la formation, soulignant qu'il s'agit de former une élite dont les prestations doivent être exemplaires.
Au Nord Kivu, pendant ces temps, la protection des civils demeure une priorité pour la MONUSCO et les FARDC. Dans la ville et les territoires de Beni, les casques bleus renforcent leur présence aux côtés de l'armée congolaise afin de prévenir et contenir la menace persistante des groupes armés dans la zone. Depuis mi-janvier, des patrouilles conjointes menées de jour comme de nuit sur plusieurs axes stratégiques sont déployées sur le terrain. Objectif, assurer une présence dissuasive et renforcer la sécurité des populations civiles. Les détails avec le major Ahmed Bouéa, officier de l'information publique de la force de la MONUSCO, au micro de Martial Papi Moukeba.
Dans le cadre de son mandat de protection des civils, la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO, composée de contingents tanzaniens, malawites, kenyans, népalais et sud-africains, mène depuis le 16 janvier des patrouilles robustes conjointes avec les FARDC dans le cadre de l'opération Imuja. Déployée de jour comme de nuit, la brigade d'intervention opère le long des axes stratégiques et dans les zones forestières de Sayo, Bini, Mandombi, Maïfassa, Mavivi, Mapiki, Mbao, Ocha, Eringiti, ainsi que dans les zones environnantes avec pour objectif de dissuader et de neutraliser les activités des groupes armés opérant dans la région. Ces opérations conjointes s'inscrivent dans l'exécution de mandat de la MONUSCO et conformément à la résolution 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies. À ce titre, la brigade d'intervention est chargée de mener des opérations offensives ciblées de manière autonome ou en coordination avec les FARDC afin de réduire la menace que représentent les groupes armés pour l'autorité de l'État et pour la sécurité des populations civiles dans l'est de la République démocratique du Congo.
Ici à Kinshasa, les dépendants des militaires et policiers veulent désormais parler d'une seule voix. Ils ont lancé mardi à la capitale congolaise une nouvelle dynamique pour défendre leurs droits et structurer leurs actions. Nation Tambo, reportage.
Enfants et femmes, tous dépendants des militaires et des policiers, issus de plusieurs associations, se sont réunis mardi au commissariat de la police à Kinshasa. Objectif, réfléchir à leur cause commune, identifier ce qui les divise et surtout se structurer au sein d'une organisation dénommée Dynamique de structure des enfants des militaires et policiers de la RDC. Magdala Kasonga, membre du présidium de la structure.
En quelque sorte, l'activité aujourd'hui, elle a été mise en place pour rassembler, faire un rappel, un appel et aussi une union de plusieurs structures mises en place qui datent de très longtemps.
Pour le conseil stratégique de cette nouvelle structure, cette initiative répond à l'appel du chef de l'État qui encourage l'organisation et la responsabilisation des différentes couches sociales. Vicky Asmit Amissi.
Comme vous le savez, c'est le militaire qui souffre lorsqu'il y a la guerre. Comme ici nous sommes en train de parler, nous sommes à l'état de guerre. Et c'est leurs enfants et leurs épouses, leurs familles qui en souffrent. C'est pourquoi nous nous sommes dit on ne peut plus désormais évoluer en désordre.
Le dépendant des militaires et policiers voient dans cette démarche une opportunité de faire entendre leurs revendications et de défendre leurs droits qu'ils estiment longtemps bafoués.
Je le disais en titre, l'accroissement du volume des échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et l'Algérie a été au centre d'une réunion technique ce jeudi à Kinshasa entre le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongia et l'ambassadeur algérien accrédité en RDC Nassim Gawawi. Les deux personnalités se sont aussi penchées sur la mise en place d'une équipe d'experts pour actualiser l'accord commercial bilatéral signé en 1975 ainsi que la préparation de la participation du ministre du Commerce extérieur à la foire agro-industrielle et à la foire internationale d'Algérie. Ces deux événements sont prévus successivement en avril et juin 2026 à Alger. On écoute les explications de Nassim Gawawi, ambassadeur de l'Algérie en RDC, dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Ça a été aussi une occasion aussi d'échanger nos points de vue sur les activités commerciales et les relations qui lient l'Algérie à la République démocratique du Congo, une relation qui mériterait d'être redynamisée. Ça a été donc à cette occasion de discuter des différentes pistes pouvant dynamiser et relancer la coopération et les relations commerciales entre l'Algérie et la RDC. Très très positif et d'ailleurs je m'en réjouis absolument par rapport aux différentes propositions et différentes pistes de réflexion qu'on a eues. Nous avons déjà, d'ores et déjà décidé d'avoir un échéancier par rapport aux actions à mener pour pouvoir aller de l'avant et voir vraiment positivement ces relations dynamisées encore une fois dans l'intérêt commun des deux pays. Ça dépendra un petit peu de son planning et de son agenda. En tout cas, la porte est ouverte. Il n'aura qu'à décider de la date. Il sera toujours le bienvenu.
Et puis, le DG de l'OCC, Étienne Chimanga Mutombo, accusé par le ministre du Commerce extérieur d'installer un système informatique parallèle de contrôle des importations au détriment du trésor public, une perte évaluée à des milliers de dollars américains pour l'an 2025 et d'une gestion irresponsable des ressources humaines. Ainsi, une action disciplinaire pour faute de gestion lourde, insubordination et mise en péril de l'office est ouverte contre les DG de l'OCC. Il a 20 jours pour présenter ses moyens de défense, indique la lettre du ministre du Commerce extérieur, dont une copie est parvenue à Radio Capi ce vendredi. En Ituri, le gouverneur des provinces a lancé ce vendredi les travaux de construction d'un bâtiment devant abriter le studio de la Radio-Télévision Nationale Congolaise, la RTNC, doté d'un émetteur de 300 watts. Cette initiative vise à appuyer les efforts du gouvernement en faveur de la pacification de la province et du renforcement de la cohésion sociale. À cette occasion, le directeur provincial de la RTNC a appelé tous les fils et filles de l'Ituri à s'approprier cette vision afin de doter la province de sa première chaîne de télévision. Isaac Remoyope, reportage.
Les bâtiments à construire comprendront 9 pièces, dont un studio de télévision, une salle de rédaction, des bureaux ainsi que des toilettes. Selon le directeur provincial de la RTNC, l'émetteur de 300 watts est déjà disponible. Toutefois, faute d'infrastructures appropriées, la chaîne de télévision n'est pas encore opérationnelle. Conscient de l'importance de cet outil dans le processus de paix en Ituri, les agents de la RTNC ont cotisé pour lancer les travaux des fondations, précisent les responsables de ces médias publics, Banks Katonji Mubengwa.
Cette chaîne de télévision doit jouer un rôle important dans la pacification, la cohabitation pacifique et la cohésion sociale entre le peuple de l'Ituri.
De son côté, le gouvernement provincial sous état de siège s'est engagé à financer ces travaux qui contribuent efficacement à la réalisation de son mandat, notamment la restauration de l'autorité de l'État et la promotion de la cohabitation pacifique entre les communautés.
Je compte également sur la télévision dans l'approche non militaire de l'état de siège qui doit compléter le travail que la RTNC fait déjà à la radio.
Par ailleurs, les directeurs provinciaux de la RTNC sollicitent l'appui d'autres partenaires de l'État afin de finaliser les travaux dont le coût global est estimé à 120 000 dollars américains. La MONUSCO avait doté ses médias des panneaux solaires afin de pallier le manque d'énergie. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Capitale.
Ce journal se poursuit au Kasaï central où la société civile du peuple déplore l'arrêt des travaux de réhabilitation de l'Athénée de la Renaissance de Kananga. D'après Emmanuel Isaac Kabukapu, son coordonnateur, des herbes ont poussé de part et d'autre du site. Il indique qu'il y a près de 3 ans que les travaux de construction et de réhabilitation ont été lancés sur ce site. Pendant ces temps, les élèves de l'Athénée sont éparpillés dans d'autres écoles et éprouvent d'énormes difficultés, tant à cause de la distance qu'ils doivent parcourir que des mauvaises conditions d'apprentissage. Emmanuel Isaac Kabukapu invite les chefs de l'État à s'impliquer afin que ces travaux soient finalisés. Il est dit au micro d'André Katende Ngalamurume.
La Banque mondiale a bel et bien financé le complexe de Kamaï. Aujourd'hui, les travaux, on nous disait autrefois, c'est déjà 90%. Il y a quelques travaux qui restent. Il y a nos élèves qui effectuent de grandes distances. Un garçon qui devait être à Kamaï, il se retrouve à Katoka à cause de sa déclasse. Nous voulons l'implication du chef de l'État. Parce qu'on nous dit, il faut avoir un peu d'argent pour finir. Aujourd'hui, nous sommes au mois de février déjà. Est-ce qu'il n'est pas normal que les chefs s'impliquent avec le gouvernement pour qu'on voie à quel niveau nous sommes? Un financement de plus de 14 millions de dollars. Ce sont les dettes, ce sont nos enfants qui finiront à payer ça à la Banque mondiale. Ce n'est pas un cadeau. Mais pourquoi c'est bloqué? Pourquoi certains préfets qui devaient déjà être au niveau du complexe pour travailler se retrouvent-ils alors dehors en train de souffrir?
En Bandaka, cependant, les agents de la Société congolaise des postes et télécommunications, SCPT, réclament 3 ans de non-paiement de leur salaire. Ce 28 janvier 2026, ils ont pris d'assaut tôt les matins le bureau provincial de la SCPT pour exiger la régularisation de leur situation. Ils pointent du doigt leur directeur provincial qu'ils accusent d'être à la base de cette situation. Des accusations que l'intéressé rejette en bloc. Reportage signé Askin Zigbia Tayoro.
Selon plusieurs témoignages, les agents en colère ont brûlé de pneus devant leur bâtiment administratif avant même l'heure d'ouverture du bureau provincial, marquant ainsi le début officiel de leur mouvement de grève. Ils affirment être fatigués de travailler sans être rémunérés par la direction générale de la SPT basée à Kinshasa. Par ailleurs, ils accusent leur directeur provincial de mauvaise gestion des recettes locales et du patrimoine de l'entreprise publique. Jérôme Bouka, président de la délégation syndicale.
Nous sommes engagés ici depuis le 26 juin 2022 jusqu'à aujourd'hui, on ne reçoit rien. On ne bénéficie pas au niveau national, tout comme ici au niveau provincial. Nous avons des recettes locales qui est seulement au profit du directeur.
De son côté, Pichu Bapenge Bobango, directeur provincial de la SPT Équateur, rejette toutes les accusations portées contre lui. Selon lui, il revient à la direction générale de répondre aux revendications exprimées par les grévistes.
Si moi je fais l'habit, on va envoyer les inspecteurs et les auditeurs. Mais lorsqu'ils sont tentés de revendiquer, c'est pas à moi de les payer. On ne doit pas faire la grève comme ça. La grève, ils doivent écrire tout ça, puisque moi je ne suis pas d'ici.
Il affirme également que plusieurs agents à la base de la grève sont irréguliers au travail et que certains auraient même trouvé un emploi dans d'autres entreprises.
Dans la province de la Tchopo, les fidèles protestants de la 13e communauté baptiste du fleuve Congo sont descendus ce vendredi dans quelques artères de la ville de Kisangani. Objectif, dénoncer l'arrestation des trois de leurs pasteurs par la police nationale congolaise pour une affaire civile. Arrivé au cabinet du gouverneur des provinces, le représentant a lu un mémorandum avant de le remettre au gouverneur intérimaire Didier Lomoyo Itekou. Un reportage de Jacques Mokonkole.
La marche des fidèles protestants de la 13e communauté baptiste du fleuve Congo est partie de la paroisse Yaliélé pour aboutir au gouvernorat des provinces. Calico et pancarte à la main, les fidèles se sont fait accompagner de leur pasteur, tous vêtus de leurs vêtements liturgiques. Dans leur mémo lu devant l'autorité provinciale, ils dénoncent l'enlèvement mardi dernier par la police de trois pasteurs dans l'enceinte de la mission ecclésiastique du Haut Fleuve. Ils fustigent également le traitement réservé au secrétaire régional, comme l'explique le pasteur Christophe Liande Bolema.
La violation des liens du culte, l'humiliation et le traitement dégradant de notre secrétaire régional, le révérend pasteur Emmanuel Koupenza Makelele, accompagné de deux révérends pasteurs, Gérald Otombe et Boniface Akumbwe. Deux, condamnons l'instrumentalisation de la police nationale.
Après avoir reçu ce mémo, le gouverneur intérimaire Didier Lomoyo Itekou s'est retiré dans son bureau avec les pasteurs pour un entretien approfondi autour de cette question qui s'apparente à un conflit foncier. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'organisation État islamique du Sahel a revendiqué vendredi 30 janvier 2026 l'attaque menée dans la nuit de mercredi à jeudi dans la zone de l'aéroport international Diori Amani de Niamey au Niger. Une attaque peu commune de la part de ce groupe et qui suscite nombre d'interrogations.
L'invité.
Après les communes de Limete, Gombe et Lemba, HJ Hospital étend ses services dans la commune urbano-rurale de Lancélé. Depuis ce lundi 26 janvier, cet établissement hospitalier fonctionne en continu 24 heures sur 24 avec plusieurs services déjà opérationnels, notamment l'hospitalisation, la maternité et l'imagerie médicale. Invité de Radio Capi, le médecin directeur de HJ Hospital, Dr Joseph Bangabe, explique que cette implantation répond à un objectif, celui de rapprocher la population des soins de santé de qualité afin de sauver davantage de vies. Il répond aux questions de Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour, docteur Joseph Bangabe.
Bonjour, monsieur le journaliste.
HJ Hospital tourne désormais en plein régime dans la commune de Lantélé. Quelle est la particularité de cette extension?
Merci. Je préfère vous dire que l'HJ Hospital ne cessera de surprendre la population congolaise. Nous surprenons par notre audace, nous surprenons par nos réalisations et nous surprenons par notre refus de nous contenter du statu quo. Aujourd'hui, vous pouvez le vérifier, l'HJ Nsélé ouvre ses portes 24 heures sur 24 et l'HJ a tenu compte de la population qui habite la commune de Lancez-les. C'est ainsi, par exemple, que vous avez une consultation du médecin généraliste qui coûte $5 et du médecin spécialiste qui coûte $10. C'est ça le prix, même dans presque tous nos hôpitaux de l'État. Et donc, nous sommes dans la politique du gouvernement de notre pays.
Quels sont les différents services opérationnels ici, précisément à Lantélé?
Nous avons le 4 services de base d'abord. Vous avez la pédiatrie, nous avons la gynéco-obstétrique, nous avons la chirurgie, nous avons la médecine interne et le service d'imagerie médicale. Là, nous avons la radiographie, vous avez l'échographie et nous venons de mettre le scanner. Donc, désormais, au lieu que le malade quitte la commune de Lancélé vers le centre-ville, vous avez à côté un scanner qui va être fonctionnel 24 heures sur 24.
Commune de Lancélé, district de la Tchangou, est-ce que vos services sont à la portée de la bourse?
Voilà pourquoi nous avons dit que HJ ne cesse de surprendre. Donc avant de venir nous installer, on a tenu compte de ça. Voilà pourquoi je vous ai dit la consultation pour les journalistes, médecin journaliste, ça sera $5. Ça a toujours été $5. Et pour le médecin spécialiste, c'est $10. Ce qui n'est pas le prix à la Gombe ou à Limité. Donc on a tenu compte du train de vie de la population de la commune de Lancélé.
Après Limété, Bypass, Gombe, désormais vous êtes à Lancélé. Quelle est la prochaine étape?
La prochaine étape, c'est que nous ouvrons d'ici là, je crois une semaine, un centre diagnostique à Massina. Dans la commune de Massina, oui, je crois au quartier 1, il y aura un centre diagnostique. L'idéal, c'est d'éviter que les gens puissent aller à de longues distances pour faire le même examen qu'ils peuvent faire, par exemple, à Chigi Limété, à Chigi Gombe. On préfère que ceux qui sont à Lancélé le fassent ici, ceux qui sont à Massina peuvent faire et vous avez le même plateau technique, vous avez le même personnel et vous avez la même qualité des résultats.
À marge de l'ouverture de ces services cliniques 24 heures sur 24, avez-vous un message à lancer d'abord aux autorités et puis à la population lambda?
Aux autorités, c'est que nous sommes dans la logique du gouvernement de la République. Le ministre de la Santé publique insiste sur l'accessibilité des soins de qualité aux plus pauvres. Et donc, HJ est dans cette logique. Voilà pourquoi nous amenons nos services de qualité vers la population la plus pauvre avec de prix préférentiels. Une consultation pour un médecin généraliste, pour le standard de HJ, c'est pas trop cher. Une consultation de 10 dollars pour un médecin spécialiste dans un hôpital comme HJ, je crois que c'est accessible à tout le monde. Et à la population, nous sommes disposés à vous aider, nous sommes disposés à vous donner les soins de qualité, nous sommes disposés à éviter à ce que vous puissiez aller à des longues distances pour avoir le même médecin, le même résultat de laboratoire, le même médicament et la même qualité de soins.
Docteur Joseph Mangambe, nous vous disons merci.
Merci, monsieur le Jean.
C'était notre invité, le docteur Joseph Bangambe, qui s'entretenait avec Blaise Ndongala Mayanda. Et c'est ce qui met fin à ce journal coordonné et supervisé par Jude Mystère Bilanda Nkoumar. Et la mise en onde était assurée des mains des maîtres par Pierre Diassinois. Vous pouvez encore suivre ce journal sur notre site internet www.radiocapi.net.